Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance, disait François Hollande lors de l'élection présidentielle de 2012, traduisant ainsi une pensée généralement répandue au sein de la population française, selon laquelle la finance serait, si ce n'est un ennemi, du moins un adversaire, ou du moins quelque chose qui pourrait être dangereux pour les populations. Force est de constater que la finance est peu connue, voire même mal connue, qu'on l'associe souvent à l'argent, à la spéculation, au fait de s'enrichir sans travailler ou de façon indolente. Nous allons essayer, au cours de cette émission, de décrypter ce qu'est réellement la finance et de voir aussi son corollaire, à savoir comment fonctionne le monde de l'économie. Est-ce une science barbare ou est-ce quelque chose que l'esprit humain peut appréhender et tenter de comprendre et d'expliquer? Pour en parler, je reçois Alexis Rostand. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes diplômé d'HEC, vous dirigez une société de gestion qui est basée à Paris. Vous êtes également professeur de philosophie de l'investissement à Dauphine, Paris-Dauphine, et vous venez de publier aux éditions Bolen un ouvrage qui essaye justement de remettre les choses à plat sur la question de l'économie et de la finance, qui s'intitule « L'économie, science barbare, point d'interrogation, une philosophie de l'investissement ». Alors, on a évoqué la question de la finance en ce début d'émission. Comment est-ce qu'on pourrait définir simplement la finance? Qu'est-ce que c'est que la finance ou le monde financier et à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que c'est aussi important?
Alors, effectivement, la finance est un monde très vaste. Si je pars de ce que je connais, mon expérience en société de gestion, disons que ça regroupe l'ensemble des investisseurs, des acteurs dont la vocation, c'est de transférer l'épargne là où elle est abondante, où elle est constituée, vers un emploi, qu'il s'agisse des entreprises, des infrastructures ou de l'immobilier. Donc, la finance, pour simplifier, c'est ce monde des intermédiaires qui cherchent à capter l'épargne pour l'employer au bénéfice de ceux qui en ont besoin. Voilà. Et en effet, alors sans déflorer le sujet, c'est un univers assez complexe, très réglementé souvent, très global avec toute une série d'acteurs. Mais disons que la mission cœur, et ce qui, de mon point de vue, en fait la noblesse de sa vocation, c'est de transférer l'argent là où il est abondant vers là où il manque.
On pourrait dire, en simplifiant, amener de l'argent là où il ne sert pas, à un endroit où il sera utile.
Ben ouais, en principe, c'est la vocation de l'investisseur, c'est de s'assurer que l'épargne soit employée, et naturellement, alors à des fins qui soient le plus utile possible. À la différence, disons, de l'épargne, enfin l'emploi purement spéculatif, disons. Et d'ailleurs, dans le livre, je cite cet économiste Benjamin Graham, auteur d'un livre bible, disons, dans le domaine financier, qui est l'investisseur intelligent, où il distingue dès le début de son propos l'investisseur du spéculateur, considérant que d'une part, l'investisseur, c'est en principe l'acteur informé qui discerne sur l'emploi judicieux qui peut être fait de l'investissement, donc, sur le long terme, donc, l'investisseur qu'on appelle value, pour schématiser, celui qui cherche à créer de la valeur, par opposition au spéculateur, qui lui est un arbitragiste en quelque sorte, qui cherche un bénéfice très court terme. Cette distinction elle-même d'ailleurs est contestable, parce qu'il y a toujours une dimension de spéculation dans l'acte d'investissement, de pari, mais disons que voilà, une des raisons probablement pour lesquelles la finance est honnie, détestée, mal comprise, c'est que souvent le spéculateur est la figure qui apparaît tout de suite, c'est celui qui cherche à s'enrichir sur le dos des autres le plus rapidement possible. Or, non, l'essentiel du monde de la finance, de la compagnie d'assurance vie au notaire, est un ensemble beaucoup plus vaste, dont l'utilité sociale est clé. Et voilà, donc un des propos du livre consiste en quelque sorte à réhabiliter cette vocation et à suggérer des concepts un peu plus fondamentaux pour expliquer comment, d'un point de vue d'historien, de philosophe, le financier est une figure sociale importante qu'il faut bien apprendre, enfin qu'il faut considérer dans toute son intégralité, justement.
Alors, ce qui surprend lorsqu'on lit votre livre qui traite d'économie, c'est de voir qu'il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas de formule mathématique. Or, Très souvent, l'étudiant en économie fait d'abord des mathématiques. Et vous, vous l'abordez par un autre angle, qui est d'ailleurs l'angle classique, l'angle très traditionnel, qui est celui de la philosophie de l'économie. Vous montrez que l'économie est, donc, vous parlez de philosophie de l'investissement, que l'économie est d'abord une pensée philosophique, et vous citez un certain nombre d'auteurs, on va y revenir. Donc, il y aurait deux approches de l'économie, on va dire une économie de mathématiques, ou réduite aux mathématiques, et une qui serait davantage issue de la philosophie.
En effet, alors disons qu'il y a, pour revenir à la genèse de ce livre, il y a un point de départ, et il y a ce terme de barbare, hein, qui est la figure du spécialiste de l'être fragmenté, en quelque sorte, qui est donc qui, absorbé par son outil technique, sa, en l'occurrence la mathématique économique, se pense comme un être autonome et se coupe des savoirs fondamentaux. Et en effet, là où la... disons l'économie classique de certains des auteurs que je cite de l'école autrichienne valorisait un discours pluridisciplinaire et les liens avec la sociologie, l'anthropologie, le financier contemporain, très largement influencé par disons l'école néoclassique pour faire très court, a eu tendance à survaloriser l'emploi des modèles économiques, avec comme contrepartie une, me semble-t-il, une perte de sens, et puis cette problématique du barbare qui est en gros qui résonne en silo dans son couloir de connaissances en quelque sorte sans se préoccuper des autres savoirs. Donc, et en effet, de ce point de vue-là, l'outil mathématique enfin, incarné par disons ce qu'on appelle les modèles d'arbitragistes ou la théorie du prix d'équilibre a eu tendance à considérer que l'équation mathématique en soi était un outil optimisant. Là où justement le propos, le fait de suggérer des clés de lecture avec quelques historiens tente à mettre de côté cette vision totalisante en quelque sorte de l'économie mathématique au profit d'une vision beaucoup plus large. Qui était celle que les économistes préclassiques favorisaient. Voilà. D'où ce recours à l'histoire, à la sociologie, à l'anthropologie, qui permettent de mettre en perspective l'acte d'investissement au sein duquel l'outil mathématique n'est qu'une convention qui doit servir une fin supérieure.
Vous avez parlé de l'école autrichienne. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment on pourrait la définir en quelques mots pour nos éditeurs qui ne sont pas forcément familiers de toutes ces subdivisions de la science économique?
Très bien. Alors, en effet, l'école autrichienne, c'est un... Alors, comme souvent, les écoles ne sont pas des écoles préconstituées. C'est un terme qu'on a apposé a posteriori à certains historiens, à certains économistes. Mais grosso modo, ça regroupe des auteurs donc, comme Ludwig von Mises, Friedrich Hayek ou d'une certaine manière, Wilhelm Röpke, qui en est un de ses successeurs, qui sont des auteurs, pour la plupart en effet, autrichiens, économistes du début du 20e, qui s'intéressaient beaucoup à la sociologie, à l'anthropologie, et considéraient que l'économie était une fille de la logique et non pas une science mathématique, en quelque sorte. Et d'une certaine manière, certains de ces représentants ont été progressivement marginalisés, précisément par des économistes qui leur ont succédé, plutôt libéraux, encore pour faire très court, qui ont eu tendance à considérer que l'économie en tant que telle était une science quasi autonome. Alors, je simplifie, mais ça revient à ça. Et de fait, des auteurs comme donc Ludwig von Mises, que je cite dans ce texte, hein, qui est l'auteur notamment d'un livre qui s'appelle L'action humaine, qui considère que l'économie est une science de l'action, et donc une science de l'homme en quelque sorte, ont été progressivement balayés des cursus d'enseignement classique. Et ce que j'essaie de faire en rappelant leur nom dans cette succession de lectures, dans cet essai, c'est de considérer qu'il y a un intérêt aujourd'hui, alors que justement on parle de finances responsables, de recherche de sens dans l'économie, à redécouvrir ce qui a été progressivement oublié, voilà, notamment dans cette école autrichienne, incarnée par des auteurs que j'ai cités.
Vous parlez de l'économie intégrale en disant qu'il s'agit d'intégrer l'être et l'agir, c'est-à-dire la personne humaine et l'action de cette personne humaine. Ce serait ça pour vous une bonne définition de l'économie?
Oui, enfin, l'économie en effet est une science de l'action en quelque sorte, fille de la logique, je le répète, et au cœur de l'action il y a l'homme dans toute sa complexité et dans toutes les interactions qu'il peut avoir. Et par disons l'adjectif d'intégralité, la démonstration que j'essaye de faire, qui elle-même s'inspire de travaux préexistants, enfin, issus pour une bonne part de la doctrine sociale de l'Église, et te dire qu'il faut, ouais, il faut se méfier des modèles totalisants et des outils dont on a rapidement parlé, en revenir à la personne en tant que sujet, et analyser toutes les interactions de cette personne avec son environnement et la dimension d'intégralité. En quelques mots, ça revient à appréhender l'ensemble des dimensions de cette personne, qui sont donc, enfin, de l'investissement, donc un acte personnel, politique, économique évidemment, et social et historique en quelque sorte. Et donc chacun de ces aspects de la personne en quelque sorte, de l'action humaine, mérite d'être analysé, et l'intérêt d'employer l'investissement comme fil rouge à la réflexion, c'est précisément un acte qui est personnel, puisqu'on voit toujours un choix personnel, un acte historique qui est déterminé historiquement, d'où l'intérêt de s'intéresser aux historiens de l'économie, un acte évidemment économique, puisqu'il y a toujours le souci du rendement et de l'emploi du capital, et puis un acte évidemment social qui implique la société, la cité, et donc un acte éminemment politique à certains égards, puisqu'il vise le bien commun. Voilà. Et donc par intégralité, on suggère ces différentes approches sur lesquelles mon livre se conclut et que j'élabore dans mon cours, qui vise à une prise en compte un peu plus large de cet acte d'investissement à partir, disons, de sa dimension personnelle et humaine, disons.
Il y a un autre élément que je trouve intéressant dans votre ouvrage, c'est que par ce livre, vous apportez de la pensée, enfin, vous réfléchissez à cette question de l'investissement et de l'économie, et vous-même, vous êtes un praticien. Or, on voit que dans l'histoire classique de l'économie, on a toujours eu des praticiens qui étaient également des penseurs. Et aujourd'hui, on a des économistes qui souvent ne sont pas des praticiens ni de la finance ni de l'économie, c'est-à-dire que ce ne sont pas des chefs d'entreprise, une fiche de paye, un bulletin de salaire, ils peuvent le concevoir mais ils ne le vivent pas, si je puis dire. On a l'impression d'avoir, d'ailleurs comme dans beaucoup d'autres sciences, une dissociation entre celui qui pense et celui qui agit.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, en quelque sorte, cette intégralité, je me l'applique à moi-même. Ce chemin de lecture, c'est en quelque sorte ma propre édification que je concours, et le fait d'être moi-même un praticien m'aide à ma réflexion, ne serait-ce que parce que je ne me sentant pas spécialement légitime d'un point de vue théorique, je suis arrivé à ces thèmes par mon travail en quelque sorte. Et inversement, je perçois que dans l'environnement, disons, des praticiens que je fréquente, il y a une certaine aspiration à nourrir sa réflexion d'auteur classique, et le fait de pouvoir les fréquenter depuis un certain temps est quelque chose qui est bien perçu, même si en effet le spécialiste, le financier spécialiste, disons lambda, n'est pas forcément familier avec René Girard, Jean-Pierre Dupuis, et il découvre ça avec intérêt, mais disons que c'est assez marginal dans sa propre réflexion. Donc en effet, il y a, c'est du reste au cœur de la thèse, et il y a ce constat d'être fragmenté, hyper spécialisé, qui eux-mêmes ont des difficultés à faire leur propre unité en quelque sorte, et c'est d'où le terme de barbare, hein, et la référence initiale à Jean-François Mattei, que j'aime beaucoup, à son livre La barbarie intérieure, qui constate un peu avec désolement que le fait d'avoir créé des êtres hyper spécialisés et d'avoir fait disparaître le socle des humanités est en soi un peu mortifère, donc il y a ce sujet. Et à l'autre bout de la chaîne, en quelque sorte, dans le domaine de l'investissement, puisque je me cantonne à mon activité que je connais, mais enfin qui a des implications importantes, puisque potentiellement on peut tout financer, il y a une volonté de retrouver du sens, et mon propos consistant à justement essayer de suggérer, alors d'abord, notamment dans le cadre de ces enseignements, en fin de cursus à Dauphine, des éclairages extra-financiers, en faisant découvrir ces auteurs, pour ensuite suggérer de trouver du sens dans ce qu'on fait en cherchant à la source de l'histoire et de la philosophie.
Alors vous citez beaucoup d'auteurs, vous appuyez sur un certain nombre d'auteurs. Il y en a un que j'ai découvert grâce à vous. Alors vous parlez de Braudel, Schumpeter, René Girard notamment, mais Jean-Pierre Dupuis, c'est un auteur où j'avais peut-être une fois ou deux entendu son nom, mais je ne l'ai pas lu, je ne l'ai jamais lu, et je ne le connaissais pas plus que ça. Donc grâce à votre livre, j'ai pu le découvrir. Qui est Jean-Pierre Dupuis, et en quoi vous paraît-il intéressant pour consacrer un chapitre de votre ouvrage?
Ah oui, alors Jean-Pierre Dupuis est... est un philosophe contemporain, d'ailleurs toujours en vie. Il a longtemps enseigné à Polytechnique, également à Stanford, je crois. Et c'était un des disciples d'abord d'Ivan Illich, que vous devez connaître, donc, dans les années 70, puis de René Girard, dont il a largement épousé la thèse de la théorie mimétique, et qu'il a essayé de développer dans des ouvrages qui visent en particulier l'analyse économique. Et alors, il a différentes... différentes idées importantes dans ces livres. Une des idées étant, dans un ouvrage que je cite qui s'appelle « L'avenir de l'économie », le fait qu'il y a une métaphysique de l'économie et il y a une relation au futur et au passé. Alors, il ne parle pas d'investissement en tant que tel, mais qui en quelque sorte traduit, pour faire très court, la religiosité de l'être. Autrement dit, il y a ce qui m'intéresse chez Jean-Pierre Dupuis, donc à partir du socle en quelque sorte théorique de René Girard, c'est la capacité à se projeter dans l'avenir, une métamystique du présent qui suppose ce qu'il appelle lui une transcendance. Et pour simplifier, il considère que l'action économique doit, pour exister, se projeter vers un tiers, en l'occurrence le futur. Et ensuite, il développe tout un modèle qui s'appelle l'autotranscendance, où l'être a besoin de se fixer sur un objet externe, encore reprenant le mécanisme de la théorie mimétique, pour pouvoir exister. Et ça a beaucoup de pertinence, me semble-t-il, en économie, et en particulier dans la théorie de la valeur, parce qu'en gros, il emploie la thèse de la théorie mimétique de René Girard pour justifier la fixation des prix. Et en effet, qu'est-ce que c'est qu'un prix ? C'est, de son point de vue, c'est déjà deux choses. Enfin, c'est pas la valeur intrinsèque d'un objet, c'est la valeur qu'on prête à un objet parce qu'on pense qu'un tiers la lui prête également. Donc il y a nécessairement cette triangulation. Et en plus, cette valeur, elle est déterminée dans le temps. C'est-à-dire que c'est une valeur future qu'on anticipe. Et là aussi, il y a ce même mécanisme qui se met en place en quelque sorte, on la fixe par rapport à des anticipations collectives. Voilà. Et donc il y a tout un corpus qui développe, qui est très riche de ce point de vue-là, et qui est mon petit livre essaie de... Alors c'est pas toujours une langue hyper simple, hein, pour le coup, de d'introduire. Et j'en vois une autre idée importante dans son œuvre, c'est celle de la catastrophe. Du coup, c'est un autre livre qui s'appelle, et qui est aussi particulièrement pertinente du point de vue de l'investissement responsable aujourd'hui. Et donc il y a cette idée, encore que je simplifie, dans plusieurs ouvrages, dont un qui s'appelle « Pour un catastrophisme éclairé », c'est que le meilleur moyen de contourner, de résoudre une difficulté, enfin une catastrophe, c'est de l'anticiper, de la tenir pour certaines. Alors, ce qui donc est une vision apocalyptique de l'économie, ce qui suppose un rapport au temps particulier, constatant que si on nie la catastrophe, elle s'impose à nous. Et là, typiquement, le sujet contemporain, si je puis dire, c'est quoi qu'on en pense, la finance climatique, enfin le risque de déséquilibre environnemental à grande échelle, donc ça, c'est que les gens perçoivent un peu et qui est un peu que je mentionne dans mon livre, mais qui en tout cas est, pour le dire autrement, un thème en vogue, ou en tout cas une considération largement partagée. Et donc lui, il a toute une pensée sur ce catastrophisme, qui, me semble-t-il, est assez original, et qui s'inspire de René Girard et d'autres lecteurs pour suggérer ce qui renvoie aussi un petit peu à Hans Jonas que je parle, une herméneutique de la peur, Hans Jonas auquel lui-même d'ailleurs se réfère beaucoup, une herméneutique de la peur et une peur rationalisée, et donc qui finalement, c'est la conclusion, réintègre en quelque sorte le religieux, la violence, dans l'action de l'homme. Donc Jean-Pierre Dupuis, c'est un auteur... pas complètement évident que je reprends mais qui dans mon petit essai, mais qui en matière d'investissement et en particulier en matière d'investissement responsable est, me semble-t-il, extrêmement pertinent aujourd'hui.
Est-ce que on pourrait dire finalement que l'investisseur est un créateur, c'est quelqu'un de fécond qui part de rien ou qui part de zéro, qui va créer un monde comme un peu une sorte de poète d'ailleurs, et qui crée aussi. Le poète a la capacité de voir, d'ailleurs on utilise le même langage qu'un poète, mais le poète il va prendre quelques mots et il en fait quelque chose de très beau, et On se dit, mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt d'assembler ces mots et d'en faire de la poésie? L'investisseur est un peu un poète aussi, oui, dans le sens où il va voir ce que personne n'avait vu et il va être capable d'en faire quelque chose. Alors ça peut être un bâtiment, ça peut être une invention, ça peut être une nouvelle manière d'organiser le monde du travail. Enfin, il y a cette notion de vision et de création.
Oui, tout à fait. Il y a une dimension prophétique dans la fonction de l'investisseur. Et là encore, l'investisseur, il y en a de toutes sortes. Hein. Vous, moi, sommes des investisseurs lorsque nous employons l'épargne. Donc, il n'y a pas de profil type. Néanmoins, au cœur de sa mission, il y a, je répète, l'emploi du capital au bénéfice du travail. Et il y a en effet cette dimension prophétique qui consiste à anticiper, à discerner ce qui va devenir pour faire un emploi judicieux de l'argent. Et du reste, le terme même de spéculo, enfin là, quand on revient à l'étymologie du terme d'investissement, c'est la tour, hein, c'est celui qui voit loin, c'est celui qui essaie d'anticiper les mouvements profonds. Donc, il y a cette double dimension d'une capacité anticipée qui en soi, c'est un peu la valeur ajoutée de l'investisseur. C'est un trait d'esprit, un trait de caractère qui suppose qu'un bon investisseur soit quelqu'un qui ait cette dimension stratégique qui vise loin. Et puis il y a cette dimension quasi pour le coup, performative, hein, qui, lorsqu'on est dans l'espérance, le performatif, c'est celui qui fait advenir le futur dans le présent. Donc il y a cette volonté de changer le futur en influant sur lui directement. Ce qui est extrêmement, extrêmement riche comme dialectique, et ce qui fonde une bonne partie de la valeur, enfin la noblesse de l'acte d'investissement, c'est en effet, comme vous le disiez, le fait de alors, je ne sais pas si on de vivre en poète, en tout cas de faire advenir la poésie du futur dans le présent en la modifiant au travers de ses choix d'épargne, d'allocation, d'investissement.
Comment est-ce qu'on peut définir un bon investissement? Est-ce que c'est uniquement celui qui rapporte, ou est-ce qu'on peut prendre d'autres critères pour définir, enfin, distinguer un bon investissement d'un mauvais investissement?
Et alors ça, il n'y a pas de leçon d'investissement, je suis pas enfin dans ce livre en particulier, puis même d'une manière générale, je suggère aucune solution toute faite. Il reste que malgré tout, il y a un bon investissement peut s'appréhender de différentes manières. Il y a d'abord la vocation un peu fiduciaire de l'investisseur. En effet, ça suppose de ne pas perdre le capital qui a été préconstitué par les générations antérieures. Donc, a priori, un bon investisseur, c'est celui à qui on a confié une épargne qu'il ne dissipe pas. Ça, c'est pas complètement évident, notamment dans l'environnement actuel. Donc, en principe, il cherche un rendement. Et puis, au-delà du rendement, ça aussi, c'est assez dans l'air du temps, il y a tous les bénéfices extra-financiers qu'il va pouvoir générer. Et encore, un des intérêts de cette approche intégrale que je suggère, c'est de dépasser évidemment le rendement financier, mais au-delà de ça, de suggérer des clés de lecture qui peuvent permettre de prendre la dimension de l'acte d'investissement. Et j'en reviens à ces aspects personnels, sociaux, politiques, etc. Donc on pourrait dire que l'investissement intégral, enfin l'investissement conséquent, c'est celui qui préserve évidemment le capital et puis permet de faire fructifier ce capital dans toutes les dimensions de l'être, de l'avoir, et notamment du point de vue de sa civilisation en quelque sorte. Et un des intérêts que j'ai trouvé dans le fait de se replonger dans quelques historiens des civilisations, c'est de voir qu'ils partent, du capital et de l'investissement, et qu'ils attribuent très souvent, enfin, on peut citer Toynbee et Brodel, la capacité des civilisations à perdurer, à se maintenir dans les bons investissements qui ont été faits et dans les décisions pertinentes qui ont été portées par une élite responsable.
Alors vous citez Alain Perfit, qu'on connaît notamment pour son maître ouvrage C'était De Gaulle, mais là vous parlez d'un autre aspect de son œuvre, notamment ce qu'il appelait la société de confiance. Et effectivement, sans confiance, il n'y a pas d'investissement d'une part, il n'y a pas d'économie d'autre part. L'économie, comme la société d'ailleurs, repose sur la confiance.
Ah oui, tout à fait. Moi, j'avais découvert ce livre il y a quelques temps. Et puis Alain Perfit, c'est quelqu'un qu'on a globalement complètement oublié. Hein, mais c'était quelqu'un qui a une trajectoire assez, assez riche, assez complète pour le coup, hein, qui était à la fois diplomate, écrivain, ministre, et qui très tôt s'était attaché à étudier le thème de la confiance, qui était d'ailleurs, je crois, de ses mémoires de Normal. Et puis, carrière faite, il a repris toutes ses lectures et il a produit ce livre qui est un de ses derniers, La société de confiance. Il fait un peu la synthèse de tous ses enseignements pour essayer de déterminer, de formaliser ce qu'il appelle les ressorts d'une société de confiance. Il en cite un certain nombre. Et au travers de ses enseignements, il essaie d'arriver à la conclusion qu'il y a pour justifier la croissance de toute société, de toute économie, de toute civilisation, en quelque sorte un niveau de confiance minimum requis, qui lui-même est le fruit d'une combinatoire complexe. Donc, il élabore ce qu'il appelle sa combinatoire, et qui n'est pas nécessairement parfaite et optimale en toutes circonstances, mais enfin, il y a un degré minimum de confiance, et s'il n'est pas atteint, c'est la défiance qui se met en place. D'ailleurs, un autre auteur, je crois, peu après sa mort, un essayiste avait écrit à propos de la France, la société de défiance, et donc sans cette confiance, qui est un actif intangible, assez immatériel, rien n'est véritablement possible en termes de croissance, et donc on aboutit à un effondrement plus ou moins rapide d'un système. Et voilà, donc ça, je rends un peu hommage à cet auteur qui lui-même arrive un peu après d'autres auteurs que je sollicite, pour essayer d'avoir une lecture, là encore, la plus intégrale possible, qui ne soit pas unicausale, où il n'y a pas un seul facteur qui prédomine, mais qui combine un peu tous les facteurs pour expliquer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et dans un investissement, l'acte d'investissement est un acte éminemment de confiance, parce que ça suppose d'avoir confiance dans quelqu'un à qui on confie son épargne. Mais c'est pas inutile de se remémorer, de se remettre en tête ces facteurs d'explication formalisés par Perfit, pour savoir si on a raison d'avoir confiance ou pas dans un investissement. Voilà.
Ce que l'on voit aussi à travers votre ouvrage, c'est l'importance de la lecture des classiques. On a réalisé il y a quelques semaines une émission avec le général Nicolas Richoux sur l'armée romaine, et il disait l'importance qu'il y avait, notamment pour lui et pour les officiers, à lire les auteurs romains pour être un bon militaire, un bon général. Et on a l'impression, en vous lisant, que c'est aussi fondamental de lire les auteurs classiques. Alors vous ne pouvez pas que citer d'ailleurs, vous utilisez Xénophon, Aristote, enfin en tout cas de s'imprégner de ces classiques afin de comprendre les problématiques d'aujourd'hui, les éléments d'aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de fondamental, cette imprégnation des auteurs classiques.
Oui, et derrière ça, il y a cette conviction que tout a été déjà plus ou moins dit, qu'on ne réinvente pas indéfiniment des solutions, mais que les solutions sont à trouver chez les classiques, chez les auteurs lointains, et que avant de réinventer des concepts audacieux qui ne sont pas sans risque, il y a une certaine utilité à se reporter à ce qui préexistait. Donc en effet, les classiques, de ce point de vue-là, sont riches d'enseignements, et c'est un tort de l'enseignement contemporain, me semble-t-il, de les négliger, en considérant qu'il faille réinventer des solutions nouvelles, des concepts qui ne sont jamais que le réemploi de concepts préexistants. Donc pour gagner un peu de temps, en quelque sorte, et pour reprendre un peu de hauteur, c'est toujours utile d'en revenir aux fondamentaux, et notamment en matière d'investissement. Et pour le coup, une petite originalité de ce travail, c'est de conserver comme fil rouge un acte compréhensible, contingent, enfin investissement qui parle à tout le monde, qui renvoie à notre propre action personnelle, mais d'essayer de trouver ce qu'on dit à son propos, en effet Aristote, Xénophon, pour rendre la chose compréhensible et perceptible. Et en effet, dans Aristote, dès les politiques, il était question d'investissement responsable. Enfin, il suffit de s'attacher un peu au texte pour se rendre compte qu'on ne réinvente rien aujourd'hui et qu'on reformule juste une vérité qui a 2000, 3000 ans.
Merci beaucoup, Alexis Rostand, d'être venu à notre micro. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'économie, science barbare, une philosophie de l'investissement, qui est paru aux éditions Bolène. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, c'est donc je vous remercie. Vous savez que Conflit est confronté à une très forte hausse du prix du papier. Nous n'avons pas augmenté nos prix, d'ailleurs nous n'avons pas augmenté nos prix depuis le lancement de Conflit en 2014, grâce à la hausse continue de nos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à vous abonner. Nous pouvons maintenir nos prix équivalents, donc en vous abonnant, vous permettez à Conflit de continuer à vous fournir, à vous transmettre ses contenus en accès libre, abonnement numérique ou abonnement papier. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien faites connaître Conflit, offrez également des abonnements. C'est la meilleure manière de nous soutenir en vous rendant sur notre boutique en ligne revueconflit.com. Où vous pouvez également retrouver notre numéro actuellement en kiosque dont le dossier est consacré aux mercenaires, ainsi que tous les anciens numéros, là aussi en format papier et en format numérique. Merci infiniment pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.